Can you mute the PA real quick?
Ladies and gentlemen, if you could.
Mesdames et messieurs, pouvons-nous prendre nos places et 47 processus de recrutement et de passation de contrat pour les candidats des nouveaux GTLD.
Ladies and gentlemen,
mesdames et messieurs, veuillez vous installer à vos places pour que nous puissions commencer avec la prochaine séance, processus de passation de contrat pour les candidats au nouveau GTLD.
Okay, I think we're ready to guess.
Bien, nous sommes prêts à commencer. Christa prend la parole. Merci, Denis. Bon après-midi à tous. Je m'appelle Christa Papak. Je suis la directrice des services de registre GTLD. Je suis là avec Cyrus Namansi, qui s'occupe des rapports avec l'industrie des NSC, et Christine, qui est vice-présidente aux opérations GTLD. Nous allons parler aujourd'hui du processus de passation de contrat pour les candidats de nouveau GTLD. Bon nombre d'entre vous ont dû être dans la séance de mise à jour où nous avons déjà abordé certains de ces thèmes, mais nous avons maintenant une séance spécifiquement consacrée à ce thème. Il y a quelques semaines, et le processus a commencé lors d'un séminaire web pendant le mois de juin. Vous avez peut-être, quelqu'un parmi vous a pu peut-être assister. Nous vous avons expliqué le processus de passation de contrat, ce à quoi on pouvait s'y attendre. Et comme c'est la première fois que nous avons discuté du processus en détail avec la communauté, nous avons supposé qu'il fallait le faire encore une fois pour vous donner en plus une mise à jour de tout ce qui s'est passé après ce séminaire web. Les jalons et l'état de la contratation, voilà, pardon, de la passation de contrat. Le 3 juillet, on a adopté l'accord. C'est le conseil d'administration qui l'a fait. Le 3 juillet, nous avons aussi envoyé les notifications des passations de contrat ou les invitations pour pas la passation de contrat pour les priorités 1 à 50. Il y a eu 31 candidats sur 50 qui ont été invités à commencer la phase de passation de contrat. Les candidats sont invités à commencer la phase de passation de contrat sur leur éligibilité. Il y en a eu 31 qui ont été éligibles sur la base de différents repères publiés. Ils ont passé l'évaluation, ils n'ont pas de conflit, ils n'ont pas d'objection en cours. Donc le 15 juillet, nous avons reçu, ces invitations à la passation de contrat ont compris ce que l'on appelle les demandes d'information des passations de contrat, qui concerne essentiellement l'information nécessaire pour créer l'accord de registre. Sur les 31 que nous avons envoyés le 3 juillet, nous avons reçu 4 réponses jusqu'ici. Elles ont toutes signé l'accord il y a quelques jours, que vous avez vu ce matin dans la cérémonie d'ouverture. Comme je l'ai dit, nous avons passé 4 accords ce matin dans la cérémonie d'ouverture, l'un d'eux avec International Domain Registry Party LTD, une chaîne de caractères qui s'appelle en arabe web ou réseau. Ensuite avec Core Association, c'est le mot en cyrillique pour en ligne. Nous avons signé aussi avec Core Association la version cyrillique du site web et un accord de registre avec Springfields LLC. La chaîne était la chaîne internationalisée en chinois pour game, jeu. Le processus de passation de contrat. Il y en a quelques-uns parmi vous qui ont vu ces diapos. Nous les avons mises à jour et nous y avons ajouté les modifications encouru depuis le séminaire web. La première diapo explique de façon générale les étapes du processus. Au plus haut niveau, l'ICANN détermine l'éligibilité, ceux qui vont être invités au processus de passation des contrats. Après cela, nous envoyons la demande d'information pour la passation de contrat. Voilà le document, la communication qui nous permet d'avoir accès à toute l'information nous permettant de rédiger l'accord. Une fois qu'on a reçu la réponse sur la demande d'information pour la passation de contrat et que nous vérifions qu'il y a tout ce dont nous avons besoin, nous créons une version préliminaire de l'accord de registre et nous l'envoyons pour que les candidats le signent. Une fois que l'accord de registre a été signé par les deux parties, c'est-à-dire l'ICANN et le candidat, nous présentons faisons venir ces candidats à la preuve de prédélégation. C'est un autre processus PDT et on commence d'autres processus tels que la publication de l'accord et des choses du genre. Cette diapositive représente de façon graphique le processus d'une manière très générale. Comme vous pouvez le voir, il y a les cercles et cette espèce d'entonnoir avec les candidatures qui dépendent bien sûr encore une fois de l'éligibilité. Cela indique que le candidat a réussi à l'évaluation, qu'il n'y a pas d'objection en cours, ni de conflit, ni de recommandation, ni de conseil du GAC. Ces notifications d'éligibilité la reçoivent. Pour ceux qui sont éligibles, ils reçoivent ensuite la demande de passation de contrat et on rédige l'accord pour le registre et on procède à la signature. Le CIR ou la demande d'information pour la passation de contrat est envoyée par ordre de priorité selon l'éligibilité. Nous envoyons ce CIR au contact primaire et c'est le contact primaire qui doit répondre à ce CIR. Toutes ces demandes d'information de passation de contrat se font au moyen du portail de clients et toutes les réponses et tous les contacts passent par ce portail de clients aussi. Une fois que l'on a eu la réponse du CIR avec toutes les informations pertinentes, s'il n'y a pas de condition ou s'il n'y a pas de modification dans le texte ou dans l'accord, le candidat peut donc signer. Si des modifications sont demandées, il y a une étape de négociation avec les CAN. L'un des points dans ce CIR que nous faisons concerne un point de passation de contrat. Un point de contact, pardon. Ce CIR doit être complété par ce contact primaire. Toutes les communications et les communications sur le contrat et la passation de contrat doivent être assumées par la personne que vous aurez désignée en tant que point de contact primaire. Enfin, lorsque nous en sommes à l'étape de la signature de l'accord, c'est à ce moment-là que les candidats éligibles qui ont complété le CIR et nous l'ont envoyé, alors ces candidats peuvent signer l'accord et ils doivent aussi signer une annexe de l'accord de registre. Nous faisons cela parce qu'il y a certains thèmes qui n'ont pas encore été résolus et qui doivent être résolus par la communauté. Il y a par exemple des avis du GAC, des demandes des PIC de RP. Et ce que fait le processus, c'est habiliter l'ICAN à mettre à jour les accords de registre suivant la résolution de chacun de ces points. La demande d'information pour la passation de contrat, voilà le CIR, demande l'information sur 10 points. L'objectif du CIR est de trouver toute l'information dont nous avons besoin pour créer un accord de registre, un contrat de registre. L'une des choses que nous avons faites peu après le séminaire web de juin, ça a été la publication d'un guide sur le CIR, un document qui vous aide à comprendre quelles sont les parties du CIR, comment vous pouvez enfin structurer votre réponse. Ça vous permet de commencer à collecter l'information à l'avance, avant d'avoir reçu l'invitation à la passation du contrat. Donc pour tous ceux qui veulent accélérer le processus de passation de contrat, vous pouvez commencer à ramasser toute cette information et pour être préparé au moment où vous aurez reçu l'invitation à la passation du contrat. Je veux en venir aux 9 différents éléments du CIR, de la CIR, pardon. Donc, le premier point que l'on demande, c'est justement le point de contact. Le contact pour le processus de passation de contrat. Qui va établir des rapports avec l'ICAN pour la signature du contrat? Qui va signer l'accord plus spécifiquement? Et qui est le contact pour les notifications légales? L'annexe A de l'accord, c'est justement la partie de l'accord qui décrit les services que vous allez fournir. Cette annexe comprendra les contenus de la zone de TLD de services DNS, suivant le guide de candidature, et les services supplémentaires, s'il y en avait, suivant la candidature. En ce qui concerne les contenus de la zone des TLD, le guide de candidature spécifie ce qu'il peut y avoir dans la zone. Tout autre contenu doit faire l'objet d'une approbation pendant la procédure. Et l'annexe A inclut une explication à cet égard. Les services supplémentaires, tout autre service que vous décrirez dans la candidature, des services supplémentaires que vous voulez fournir, doivent être inclus dans cette annexe A. Un exemple de service supplémentaire, c'est par exemple l'enregistrement d'IDEN de deuxième niveau ou d'autres types de RPM. L'instrument pour l'opération continue, le COI, ou instruments pour les opérations continues nécessaires pour le registre doivent contenir les détails de la spécification 8 de l'accord de registre. Nous savons que tout le monde avait beaucoup de questions à poser sur les LOC et pendant le séminaire du mois de juin, nous nous étions engagés à commencer un programme de diffusion extérieure sur le LOC. Nous avons commencé cela le 5 juillet, par la diffusion de ce thème parmi tous les candidats et pour qu'ils puissent bien comprendre pour leur expliquer tout ce qui leur posait des problèmes. La phase initiale vient de commencer. Nous continuons à envoyer des lettres aux candidats dont les LOC semblent avoir des défaillances ou ne pas respecter les spécifications 8. Si le LOC est acceptable, la plupart des points communs concernent une durée inadéquate, la durée, la date de péremption ou d'échéance de la LOC, les modifications dans les dates de la candidature présentée. S'il y a quelque chose qui a changé dans les dates de votre candidature, il faut que vous soyez précis et il faut que le candidat présente une demande de modification. Cela a une période de commentaires de 30 jours et les candidatures ne peuvent pas être acceptées à la prochaine étape jusqu'au moment où cette période de commentaires de 30 jours soit finie. Il se peut que certaines demandes de modification soient fasse l'objet d'une réévaluation. La plupart d'entre vous connaissent cela, mais nous avons un processus de demande de modification qui est publié sur le microsite de Nouveau GTLD. Suivant la section 5.1, les candidats doivent présenter une déclaration de titularité croisée. Si, par exemple, vous avez une participation chez un revendeur ou un registraire et le revendeur ou le registraire a une participation dans votre affaire, il faut présenter une CIR. Le matériel sur le CIR contenu dans le site web contient un exemple de cette déclaration dont vous pouvez vous servir comme un guide. Cette déclaration comprend des choses telles que le type de titularité, l'accréditation, l'information de contact. La spécification 9 concernant des demandes d'exonération sur le code de conduite. Les candidats peuvent demander une exonération du code de conduite si tous les domaines qu'ils veulent enregistrer sont déjà enregistrés sous un opérateur de registre pour leur usage exclusif. Si l'opérateur de registre ne vend ni ne transfère cette opération de registre à toute autre société affiliée et si la demande d'exonération du code de conduite ne va pas à l'encontre de l'intérêt public. Ces demandes d'exonération par rapport au code de conduite ont été abordées. Pendant le séminaire web, nous avons reçu des questions sur cette exonération et ce qu'il faut qu'elle contienne. Nous attendons pour l'instant, parce que nous manquons d'informations qui doivent venir de la part du conseil d'administration et du NGPC, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour le communiqué de Beijing, en réponse au communiqué de Beijing. Nous ne pouvons donc pas aborder de façon définitive de quelle manière nous allons gérer ces demandes d'exonération du code de conduite. Nous avons une version préliminaire du processus qui sera révisée dans l'ICANN et nous allons essayer de le publier dès que nous aurons fini le processus de révision. Cela sera aussi publié sur le microsite. Bien, des considérations spéciales maintenant. Il y a deux types de considérations spéciales. Il y a des candidats qui sont une OIG ou une entité gouvernementale qui doivent nous présenter des documents sur cette désignation. Toute la documentation doit être présentée dans du papier en tête officielle. Ensuite, il y a les candidats communautaires qui doivent présenter une demande communautaire candidature, pardon, communautaire définie selon la politique d'enregistrement de communauté de la spécification 12. Cette spécification va être développée d'ici peu avec l'ICANN. Et si le candidat est une ONG ou bien une entité gouvernementale et il est en même temps un candidat communautaire, il va falloir que le candidat présente les deux types de documents. Les modifications dans l'accord de registre. Suivant le module 5 du guide du candidat, les candidats doivent passer l'accord de registre tel qu'il a été rédigé. Les candidats peuvent demander et négocier des termes selon certaines exemptions, et ils peuvent négocier des termes ayant des périodes beaucoup plus larges. Que ceux qui sont inclus dans la passation du contrat. Pour que ce soit clair, dans une séance préalable, on a posé une question. Donc, les modifications de la lettre de crédit, comme ce que l'on voit dans l'annexe A, dans la spécification 12 et la 9, ne sont pas considérées comme des modifications qui seraient faites par la voie de la négociation. La signature électronique. La CIR va vous demander si vous voulez travailler avec une signature électronique. Nous avons mis en place la signature électronique au moyen d'un fournisseur qui s'appelle DocuSign, mais bien sûr, la méthode traditionnelle de signature par mail, par fax, sera disponible pour ceux qui n'auront pas choisi la signature électronique. Les prochaines étapes et l'information complémentaire. Les prochaines étapes pour l'ICANN, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons envoyé les 50 premières notifications au début du mois de juillet. Nous allons envoyer les notifications pour les priorités des numéros 51 à 108 le 24 juillet. Nous ne voulions pas l'envoyer avant cela parce que nous étions bien au milieu d'une réunion de l'ICANN et nous avons eu des avis ou des notifications ou des commentaires des gens qui recevaient des notifications juste au moment où les réunions se déroulaient, que cela compliquait beaucoup de choses. Ensuite, on fera connaître les priorités suivantes à un nombre de 40 par semaine jusqu'à ce que l'on ait fini. Entre 50 et 108, tous les candidats ne seront pas éligibles pour la passation de contrat. Ceux qui seront éligibles à la passation de contrat, et comme Christine l'a dit tout à l'heure, recevront des notifications éligibles. Et on en enverra aussi aux candidats non éligibles pour leur expliquer pourquoi ils ne sont pas non éligibles. Nous voulons accroître la vitesse de ce processus pour que les réponses soient reçues aussi vite que possible. Nous en avons parlé avant avec Christine. Nous envoyons 40 par semaine, c'est un minimum hebdomadaire, mais il se peut que nous en envoyions davantage. Mais une fois que le processus sera complété, il va falloir que l'on s'arrête pour que nous soyons à une vitesse de traitement de l'information relativement stable. Un autre point, le portail de service de client pour ce processus sera publié aussi avec un guide de l'utilisateur pour que l'on puisse comprendre comment cela fonctionne à l'intérieur du portail. D'autres étapes à suivre au sein de l'ICANN. Notre objectif initial, c'est la signature de 20 contrats hebdomadaires. La voie normalisée de passation de contrat par la négociation, le temps est entre 2 et 3 semaines. Et quand il y a une passation de contrat au moyen d'une négociation, le temps pour le moment de la signature dépendra des négociations, de ce qu'il y aura, tous les points qu'il faudra trouver pour les candidats. Les pas à suivre sont ceux qui suivent. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous rendre sur l'orientation de notre microsite de la CIR et que vous complétiez les demandes d'information. Si vous avez fait présenter des candidatures pour des chaînes de caractères multiples et que vous vérifiez les conditions de l'annexe 8, par rapport à cette CIR, vous pouvez voir une lettre de crédit à titre d'exemple pour que vous voyez un tout petit peu quelle est la durée, la période de vigueur, etc. D'autres points à suivre pour les candidats, si vous avez essayé de présenter une modification mais que vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire maintenant. Et je vous demande d'être attentif aux mises à jour qui pourraient être publiées dans les pages, sur les pages de passation de contrat du microsite. Et enfin, l'un des points qui vont être requis pendant la période de PDT, c'est la signature d'un contrat pour la protection des données et pour l'analyse des données. La surveillance le dépôt des données. C'est très important de faire cela pour que vous puissiez avancer sur le processus PDT, parce que si vous n'avez pas passé ce contrat avec l'agent de protection de données et de dépôt de données, vous ne pourrez pas avancer dans le processus. Tout cela sera publié, vous pourrez accéder à cette information. Il y aura des liens qui vous permettront d'aller chercher toute cette information que je viens de vous présenter.
Yes.
Est-ce que je peux poser ma question? Bonjour Amadeo. J'attendais qu'on me permette de poser la question. Avant de poser ma question, je tiens à vous féliciter. Je suis vraiment impressionnée. La dernière fois que j'ai négocié un accord, cela m'a pris 7 mois. Et cela, c'est mon expérience personnelle. Mais cette fois-ci, ça a pris 10 jours. Ça n'a pris que 10 jours. 4 jours, parce que c'était un long week-end, et puis parce qu'il y avait des erreurs de notre part. Donc, franchement, ça a pris très peu de temps et je suis agréablement surpris. Amadeo, je pense que c'est la première fois que tu dis quelque chose de positif par rapport à l'ICANN. Amadeo prend la parole. Mais non, avant que tu arrives, j'ai dit plein de choses positives. J'ai quelques suggestions par rapport à des questions. Tout est très bien préparé, bien ficelé, tout a l'air très simple. Il ne prend qu'une heure et demie de compléter tous les formulaires. Mais en ce qui concerne la lettre de crédit, vous dites que vous traitez les cas où cette lettre n'est pas là, mais j'aimerais que vous expliquiez davantage, parce que d'après ce que vous venez de dire, on aurait l'impression qu'il s'agit d'une demande d'information uniquement, alors que nous recevons beaucoup de messages. Nous n'avons que quelques jours pour compléter tout cela, mais nous recevons plein de questions de nos clients quand ils ont lu le microsite, parce que apparemment il faut des documents signés par une banque. Donc je pense que là-dessus il faudrait être plus précis. En ce qui concerne la lettre de crédit, vous avez changé d'adresse. Il y a une autre adresse de l'ICANN. L'ICANN est à Waterfront, mais selon ce que vous avez montré, le domicile n'a pas changé. Je pense qu'il faudrait modifier le domicile qui est affiché. Et je voulais savoir donc qu'est-ce qui se passe avec ce changement de domicile. Nous avons un préformat avec tous les PIX, et pour les communautés, il y a la spécification 12 concernant l'ICANN et nous avons la question 20E où sont spécifiées les questions. Et je vous suggère d'y inclure la définition de communauté, car très souvent, cela est inclus dans la question 20A. Normalement, la politique dit que les gens qui peuvent accéder à cela sont les membres de la communauté. Mais si vous voyez la la définition de la communauté n'y figure pas et cela semble assez bizarre. Ma question est la suivante. Si vous ne voulez pas ajouter la définition de la communauté, je pense que ce serait parce que vous ne demandez pas une négociation pour ce contrat. Merci Amadeo. Pour répondre à ta question, oui, c'est correct. Je voulais dire une autre chose par rapport à ce que tu as dit par rapport au changement de domicile. Il est vrai, c'est vrai, nous avons déménagé et si la seule chose incorrecte dans la LOC, c'est notre adresse, nous allons accepter cette lettre de crédit. Mais s'il faut que vous mettiez à jour cette lettre de crédit, nous vous demandons donc à ce moment-là que vous mettiez à jour aussi le domicile qui a changé. Wendy? Carole, pardon. On va lire quelques questions en ligne. La première question, c'est de Nexomasova. Je ne peux pas prononcer son nom. Quelle est la raison pour laquelle il y a de nouvelles conditions pour le COI? Ces conditions ne sont pas nouvelles. Ces exigences ne sont pas nouvelles. Elles figurent dans l'accord de registre depuis un moment déjà. Ce sont des exigences ou des conditions concernant les instructions d'opération continue. Une personne qui va poser une question. J'ai une question. J'espère pouvoir poser plusieurs questions. Dans une des diapos que vous avez montrées, peut-être qu'on pourrait revenir sur la diapo où vous montrez le processus. Vous dites que ça prend de 2 à 3 semaines depuis le moment où vous recevez le CIR complet ou bien c'est à partir d'autre chose. C'est à partir du moment où nous recevons le CIR complet. Et je voudrais ajouter un autre élément. Tous les délais que nous citons ici, cela nous prend 2 à 3 semaines maximum. C'est ce qu'on veut essayer de dire. Nous voulons améliorer ces délais, mais nous voulons avoir aussi des attentes réalistes. L'orateur reprend la parole. Vous avez dit qu'il y aurait 40 par semaine jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait traité le groupe en entier. Une fois qu'on aura traité le groupe en entier, vous allez vous arrêter, puis vous allez reprendre 40 par semaine. C'est exactement la deuxième option. Nous allons compléter tout ce qu'on a en termes de traitement. Nous envoyons 500 documents et nous traitons 500 documents. Et nous voulons pouvoir travailler sur les réponses reçues. Et par la suite, nous allons poursuivre avec les candidatures qui restent. L'un des soucis, c'est que si on envoie toutes les demandes de CIR en même temps, nous allons recevoir les données. Ces données vont rester là sans être traitées. Cela ne serait pas efficace. Nous voulons avoir suffisamment de données pour travailler sur ces données. Et nous dépendons de vous pour cela. Mais nous ne voulons pas nous encombrer et ne pas traiter les documents que nous recevons. L'orateur reprend la parole. Y aura-t-il un jour spécifique pour envoyer les documents? Un jour spécifique? La réponse. Aux États-Unis, pour les États-Unis, ce serait le mercredi pour les CIR. Et en règle générale, pour le fuseau horaire du Pacifique aux États-Unis, ce serait 7 jours pour pouvoir envoyer plus davantage de CIR. C'est-à-dire d'un mercredi à l'autre mercredi. Ma prochaine question concerne l'exemption au code de conduite. Vous avez dit qu'il y aurait un formulaire, une déclaration qui serait publiée et je pense que ce serait utile. Pourriez-vous expliquer quels sont les critères pour déterminer dans quel cas il est possible d'accorder une exemption au code de conduite et que cela n'aille pas à l'encontre de l'intérêt public ou oui, comment vous évaluez cela? Quelles sont les mesures que vous allez prendre? Est-ce que cela est soumis à consultation publique? Ce qui m'inquiète ici, c'est que si vous laissez ça ouvert aux consultations publiques, il y aura d'autres marques qui mettront des commentaires négatifs parce qu'ils ne veulent pas que cette exemption puisse être accordée, ou les registrants peuvent également émettre des commentaires négatifs parce que ça leur convient. Donc je voudrais savoir quels seraient donc les critères pour ces demandes d'exemption. Vous le savez, jusqu'à ce que l'on finisse les détails de ce que nous publions, nous ne pouvons pas vous en dire davantage. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce sujet en particulier. Et puis mais je pense que Dan voudrait dire quelque chose. Non, il veut rien dire. Nous allons publier donc toutes les informations que nous aurons. Nous allons mettre en place un guide de mise en œuvre qui vous montrera comment formuler cette demande d'exemption. C'est pour ça que je vous pose cette question. Le processus semble être merveilleux. Vous montrez une déclaration, un brouillon de déclaration. Mais comment et quand les critères seront développés pour accepter ou refuser cette demande d'exemption de code de conduite? Pour le premier cas, c'est facile parce que c'est une auto-certification. Mais comment allons-nous savoir? Que dire à nos clients? Comment vais-je savoir? Comment je dis à mon président exécutif qu'une demande d'exemption sera refusée ou pas? Quels sont les critères? Nous n'avons pas fini de peaufiner cette question au niveau des détails. Je pense que c'est un bon moment de parler de cela avec la communauté. Ce n'est pas un processus à une seule voix. Je pense que cela concerne plutôt le dialogue. Et il faut qu'il y ait beaucoup de communication par rapport à ce sujet. Merci, Jeff. Je pense que c'est une très bonne idée. Je crois qu'il faut faire une consultation publique par rapport à cette question en particulier pour que personne ne soit placé dans une position désavantageuse du point de vue de la concurrence. Merci Jeff. Carole, la prochaine question à distance, c'est une question d'Ingrid. Y a-t-il un délai pour que le candidat présente le CIR complet après l'invitation adressée par l'ICANN? Christa prend la parole. Non, il n'y a pas de délai établi, mais la réponse... En répondant à cela, je vais répéter quelque chose que Christine a déjà dit. La réponse est la suivante. Ils restent dans la prochaine phase du groupe qui attend à recevoir les contrats, à passer les contrats. Dan prend la parole. C'est un commentaire supplémentaire. En ce moment, il n'y a aucun délai établi, mais à un moment donné, le guide spécifie un délai orientatif, parce qu'on ne peut pas laisser cela traîner trop longtemps. Tu as dit que tu voulais parler avec moi? Je me mets ici, devant le micro. Non, Edreas, ce n'est pas juste que tu passes devant tous les autres qui attendent pour intervenir. Pam Layton prend la parole, représentante de Zodiac. Zodiac a appliqué, s'est porté candidate pour plusieurs chaînes de caractères. Et ma question concerne la lettre de crédit et les instruments d'opération continue et l'article 15. Nous apprécions énormément les efforts qui ont été réalisés du point de vue de la diffusion. Nous avons 5 et parfois il y a des incohérences. Il semblerait qu'il y ait différents évaluateurs et certaines des notifications posent deux questions alors que d'autres en posent 3. Parfois c'est les mêmes questions mais formulées différemment. Nous avons reçu 3 invitations, c'est hier. Mais nous n'avons pas reçu la notification sur le COI. Nous sommes un peu confus. Comment faut-il traiter cela? Il serait important qu'il y ait une uniformité dans la façon d'évaluer ces instruments d'opération continue, les COI. Autrement, nous donnons des instructions différentes à chaque fois aux banques et cela n'est pas positif. Kevin du département légal prend la parole. C'est moi qui écris tout cela. Ce que nous avons dans nos fichiers ne représente pas toujours l'information mise à jour. Nous n'avons pas toujours les informations mises à jour. Il y a des informations qui se perdent et ou des informations qui ne sont pas saisies correctement. Mais en dernier ressort, c'est votre document qui importe. Si vous recevez quelque chose d'incohérent, il ne faut pas faire attention à cela. Nous avons introduit les corrections correspondantes aux lettres que nous vous avons envoyées parce que vous nous avez notifié qu'il y avait des modifications. Et notamment, c'est votre lettre de crédit qui fait foi. L'important, c'est que vous remplissiez les conditions. Juste un rappel. Parlez directement devant le micro parce que les participants à distance n'arrivent pas à bien vous entendre. Gio Astolat prend la parole. Je ne sais pas si on peut remettre les diapos. J'ai une question par rapport à une des diapos. Laquelle ? La diapo concernant l'utilisation de noms des registres. Je pense qu'il n'y avait pas un numéro pour identifier la diapo. C'est cet annexe A. On revient en arrière peut-être, encore un peu. Voilà. Tous les domaines sont enregistrés auprès de l'opérateur de registre pour son utilisation exclusive et nous nous réservons quelques noms. Dans quelle mesure à l'avenir? Parce que si je regarde le deuxième point, à savoir que l'opérateur de registre ne vend pas, si on a une consultation d'ici à 2 ans ou à 5 ans sur un de ces noms, quel est le processus à suivre? Peut-on les vendre? Christa prend la parole. Cela concerne la demande d'exemption au code de conduite, c'est-à-dire si tout le registre est à usage exclusif. L'orateur continue. Supposons que l'on enregistre un point TLD et que nous agissons en tant que et que nous avons un registrant dans notre espace, et cet enregistrant opère très bien, et nous disons que nous voulons que toute cette unité commerciale passe à ce bureau d'enregistrement. Comment peut-on gérer cela? Je suis Dan. Dan prend la parole. Tu parles de l'élimination de cette exemption une fois que tu l'as obtenue, c'est ça? Je dis, si j'ai une liste, Jay, ce n'est pas une liste réservée de noms. Tout le registre a des noms qui sont enregistrés pour une utilisation exclusive par ce registre. Je pense que pour préciser les choses, excusez-moi de dire ça, mais tu essayes de dire que tu veux passer d'être un registre qui ne enregistre que de noms pour lui-même à un autre registre qui peut enregistrer des noms pour des tiers, c'est ça? Bon, non. On laisse tomber. Y a-t-il d'autres questions en ligne, Carole? La question suivante. Jasmine qui pose la question suivante. La spécification de services supplémentaires de l'annexe 1 demande au candidat de passer au groupe suivant. Indiquer les changements introduits à la candidature. Est-ce que tu pourrais relire cette question? La spécification de services supplémentaires de l'annexe A dit-elle que le candidat doit procéder à l'étape suivante et qu'il doit indiquer s'il y a des changements introduits dans la demande, dans la candidature? Voyons si j'ai compris correctement cette question. Si un candidat a demandé des services de registre supplémentaires qui ne sont pas habituels et qu'il a passé l'évaluation et que ces services de registre ont été approuvés, il est éligible pour inclure ces services de registre dans l'annexe A. Si le candidat n'est pas éligible à incorporer des services de registre supplémentaires dans l'annexe A, après avoir signé l'accord de registre, il peut commencer un RSEP afin de demander l'approbation pour introduire ces services supplémentaires après la signature du contrat. Bonjour, Christa. J'appartiens au groupe de stratégie. Je voulais poser une question sur la diffusion externe qui sera faite avant les COI. Vous avez dit que vous alliez notifier uniquement les candidats par rapport auxquels il n'y a pas de souci, mais puisque vous avez pu identifier 3, vous allez dire à la communauté à quelle vitesse vous allez. Si vous n'êtes pas arrivé aux 500 et que vous n'entendez plus parler de nous, il faut qu'il y ait une notification. Merci. Carole? Votre question. Je pense que j'ai entendu ça dans une séance précédente. Est-il possible de recevoir des précisions? En quel moment le lot complet de candidatures à faire passer les contrats sera complété? Une fois que cela sera complet, cela dépendra des personnes qui vont répondre à ces demandes d'informations. Oui, bien sûr, on peut répondre à cela. Pour être clair, yeah, ça veut dire oui. Oui. Ruby Squeak prend la parole. Ma question concerne les exemptions au code de conduite, les demandes d'exemption au code de conduite. Si une chaîne figure sur la liste de l'avis du GAC par rapport au nom générique à utilisation exclusive, croyez-vous que cela crée une hypothèse par rapport au fait que cette chaîne ne devrait pas être acceptée pour une exemption au code de conduite? Excusez-moi, pourriez-vous reformuler votre question? Sachant qu'il y a une chaîne qui figure sur la liste du GAC dans son avis de Beijing comme une chaîne à usage exclusif, une chaîne de caractère générique à usage exclusif, pensez-vous que cela crée la présomption que l'ICANN ne devrait pas accorder à ces chaînes qui figurent sur la liste une exemption au code de conduite au cas où cette chaîne de caractère le demanderait? Je comprends votre question, mais je pense qu'en ce moment, on ne peut pas faire des hypothèses par rapport à cela. Merci. Y a-t-il des questions en ligne? La question est KO et de KOM. La question est la suivante. Les objections, des panels d'objections sont basés sur, se basent sur les priorités accordées au moment du tirage au sort. Est-ce que cela peut affecter la passation de contrat, le fait de présenter seulement l'objection? Le fournisseur de services de règlement de litige traite toutes les objections de façon simultanée. Sur la base du moment où ces objections sont présentées, il y a des délais spécifiques pour vérifier, etc. Le processus d'objection a lieu simultanément. Il n'y a pas une liste d'attente qui aurait un ordre de priorité. J'ai une question et une suggestion. La question est la suivante. Est-il correct d'interpréter que si l'on a reçu le CIR et qu'il n'y a pas de nouvelles par rapport à la lettre de crédit, cela veut dire que la lettre de crédit est correcte? Ou est-ce que nous n'allons recevoir aucune réponse jusqu'à ce que l'on ait complété l'information demandée dans le CIR? C'est correct ce que vous avez dit en premier. Si vous n'avez pas reçu d'informations par rapport à la lettre de crédit, c'est qu'elle est bien. Mon commentaire est le suivant. Je suis surpris de voir qu'il y a plusieurs goulots d'étranglement dans ce processus qui sont très petits. Et notre but est de faire en sorte que 20 TLD soient délégués par semaine, car c'est le rythme par rapport auquel la communauté s'est mise d'accord. Ne pas avoir plus de 20 TLD dans la racine par semaine. Je pense que c'est ce sur quoi on était tombé d'accord. Chaque étape avant la délégation doit avoir beaucoup plus de 20 par semaine pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Le processus de CIR exemplifie cela. Eh bien, on peut faire 50, on fera 20 par semaine, mais en réalité, le numéro 50 a été... On a dépassé le numéro 50, on arrive au numéro 30, vous avez envoyé 30 CIR, vous avez reçu 4 réponses, et sur les 50, vous n'avez utilisé que 20% de la capacité pendant cette semaine, et cette capacité ne peut pas être récupérée, vous avez perdu le temps. Donc je vous encourage fortement à envoyer les CIR et à dire aux candidats que si l'information doit être mise à jour, ils doivent le faire, pour que tout le monde envoie dans les plus brefs délais les informations et que ce soit vous qui travaillez par séquence, pour que au moins vous puissiez avoir une semaine de temps au cas où. Car si on fait les choses par ordre de priorité et que les dossiers se cumulent, il n'y aura pas d'avantage ou de désavantage pour les candidats. Celui qui a reçu la lettre et qui a répondu immédiatement. Et faire 20 contrats par semaine n'est pas suffisant. Il y a des gens qui auront peut-être des erreurs dans leur PDT. Il y a des gens qui ne vont pas passer l'épreuve du bureau central des marques. Bref. Jusqu'à ce qu'on n'aura pas délégué 20 par semaine, il faudra essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir arriver à ces 20 par semaine. Et à ce moment-là, on peut s'arrêter pour permettre que le processus soit mis en route. La réponse est la suivante. Notre but est de signer 20 contrats par semaine. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous venons de commencer avec le processus et nous avons entamé ce processus à l'instar d'autres processus que nous avons lancés. Nous commençons petit à petit afin que les gens puissent recevoir les informations, envoyer les informations. Et bien entendu, l'objectif dans cette étape n'est pas d'arriver à 20 signatures parce qu'il y aura la possibilité bien sûr que le PDT, certains PDT soient contestés. Nous avons bien entendu envisagé toutes ces possibilités. Mais nous ne voulons pas envoyer 1000 CIR et que ces informations créent d'autres goulots d'étranglement avec des informations qui resteraient dans les tiroirs sans être traitées. Le but, c'est de s'assurer que le processus fonctionne. L'objectif est d'arriver à 20 contrats par semaine minimum. L'orateur reprend la parole. Je suggère que ces canaux soient le plus ouverts possible parce qu'il y aura des semaines où il n'y aura pas de TLD dans la racine. Et ces semaines, c'est des semaines perdues. Oui, sans doute. Je sais ce que Christine pense, elle va vouloir ajouter quelque chose, mais nous ne pouvons pas prévoir quelles seront les réponses. En fait, on pensait qu'on allait recevoir plus de 4 réponses, mais c'est normal qu'on ne sait pas combien de candidatures, on ne savait même pas combien de candidatures on allait avoir. Christine prend la parole. Bien sûr, nous envisageons plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios différents. L'idée est d'incorporer le plus grand nombre d'éléments, mais nous essayons d'arriver à un équilibre tout en respectant les ordres de priorité. C'est un fil très fin. Avancer avec le processus de passation de contrat tout en respectant l'ordre de priorité. J'espère, je pense que dans plusieurs semaines, nous allons arriver à un moment où tous vont comprendre la nécessité de répondre très vite au CIR. Je pense qu'on arrivera à un point, à un moment où l'on va pouvoir envoyer 20 ou 30 CIR par semaine et qu'on pourra recevoir en temps opportun les réponses. Et je m'engage. Ce n'est pas seulement une question administrative. Nous allons tout mettre en œuvre dans la mesure de nos capacités.
Tenir compte des priorités ou de la liste des priorités qui ont été établies est important lorsqu'on parvient à ce qui a été planifié, c'est-à-dire à 20 par semaine. Ce n'est pas important de savoir si la détermination des priorités se fait avant, pendant la procédure. Parce que quand tout est prêt, il faut réaliser la délégation suivant la liste des priorités. C'est cela qui résout le problème. La question suivante est une question en ligne. C'est la question de Maxen. Combien de conseillers légaux sont disponibles pour des négociations sur les contrats pour l'estimation des délais? Et la deuxième partie de la question dit, la limite de 300 cas a été enfin laissée de côté pour le COI. Bien, beaucoup, plus d'un. Il y a 6 ou 7 qui sont ici présents dans la salle et il y en a beaucoup d'autres en Californie et ailleurs. J'espère que le groupe des conseillers légaux ne fera pas de goulot d'étranglement. John Wayne est un partenaire de ce groupe et un bon nombre de ses associés dans le cabinet d'avocats sont là disponibles pour intervenir dès qu'ils seront appelés. J'ai une question liée au séminaire web. J'ai cru comprendre que vous n'avez pas apprécié le commentaire public. Il semble bien que les questions sont perdues en cours de route entre mon ordinateur et le vôtre. Donc toute la communauté peut voir de toute façon les questions et cela aide dans le processus de reddition des comptes. Donc, quel est la connexion entre les appels téléphoniques et les questions dans le séminaire web? Ma question concerne la période de 30 jours de commentaires pour les demandes de modification et si cela est appliqué ou pas à la partie privée de la demande de candidature. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est un retard de 30 jours qui se produit. Mais si c'est le cas, il faudrait publier une version rédigée des parties confidentielles du contrat de candidature avec une réélaboration pour la partie modifiée. En ce qui concerne la période de commentaires de 30 jours, je sais que Christine a son propre commentaire à faire. À mon avis, si c'est une partie privée de la demande de candidature, la présentation de candidature, s'il y a par exemple une modification dans la section X, dans l'alinéa X, qu'est-ce qu'on fait? On rédige. Si c'est une modification d'une partie confidentielle, cette modification n'est pas publiée, mais on en prend note. Et la période de commentaires, bon, on permet aux candidats de modifier quelque chose dont personne ne sait rien. La période de commentaires est là pour notifier tout le monde de ce qu'il y a eu une modification. D'abord, on ne connaît pas la réponse des parties confidentielles, tout ce qui concerne par exemple les états financiers. Cela n'est pas soumis à un commentaire. Par rapport à la question sur le séminaire web, je vous remercie des suggestions que vous avez faites. Nous allons tenir compte des suggestions qui ont été faites. Nous travaillons pour que les séminaires se déroulent de la meilleure manière possible. Même si cela ne se passe pas aussi vite que je le voudrais, nous avons eu plusieurs séminaires web avec des questions et des réponses qui ont été publiées. Les questions qui n'ont pas eu de réponse pendant cette séance ont été résumées. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont, qui ont été répétées, donc elles seront groupées. Et elles auront une réponse dans un document de questions et des réponses que nous essayons de publier d'ici 2 semaines. Donc nous allons travailler là-dessus. Merci donc d'avoir répondu à cela. J'ai demandé lors du dernier séminaire web, et je le demande d'une façon relativement régulière, si votre question comprenait une autre question qui n'a été présentée dans la liste d'attente. Bon, je l'ai renvoyée et je l'ai ajoutée aux questions et réponses et je l'ai publiée sur le microsite. Savez-vous où ça se trouve dans le microsite ? Sur la page du séminaire web. Bien, une question de la liste d'attente. Les ajouts et les annexes seront-ils enfin soumis à une révision? Bon, les annexes et les ajouts qui sont présentés avec les contrats sont publiés.
Yes, we are going to post the contract.
La question qui a été formulée, nous allons publier les contrats et les suppléments écrits qui sont en ce moment dans le processus de publication. Il y a une autre question à laquelle je veux répondre sur la question de la déclaration de titularité croisée. Answer in Vancouver, Man and Machines. Cela pourra peut-être être traité pendant la prochaine séance des essais de prédélégation, mais comme nous parlons de modification des contrats, etc., les candidatures ont été présentées, d'après ce que je crois me rappeler, il y a 15 mois. Je soupçonne qu'il y a très peu de candidats qui n'aient pas fait de modifications dans leur infrastructure technique pendant cette période, une mise à jour, une modification des adresses IP, enfin, nombre de modifications techniques possibles. Jusqu'à quel point sommes-nous obligés de signaler ces modifications à l'ICANN? Cela nous inquiète parce que cela pourrait provoquer des retards et je ne veux pas informer des choses dont les gens, enfin, auxquelles les gens ne s'intéressent pas du tout, des choses qui sont banales. D'autre part, nous nous sommes engagés à informer l'ICANN des modifications faites et lors de la dernière réunion de l'essai de prédélégation, nous avons entendu dire que les gens de NIC AC vont comparer directement ce que nous avons sur notre candidature par rapport à notre infrastructure technique. Donc j'essaie de comprendre ce que nous devons informer et à quel moment nous devons présenter cette information. Merci Anthony. Je sais que nous en avons parlé à Beijing, donc je vais répéter ce que j'ai dit à ce moment-là. Nous pouvons en discuter de façon plus précise dans la prochaine section qui va commencer d'ici quelques minutes. S'il y a des manques de précision ou d'exactitude dans les candidatures, le candidat doit en informer l'ICANN à tout moment. Je reconnais que c'est un défi à relever et que nous devrions en débattre de façon plus profonde. Surtout en ce qui concerne la candidature pour tous les aspects techniques et pour les aspects qui ne le sont pas. Si vous me le permettez, je vais faire un commentaire. S'il y a une modification d'une partie de la candidature qui n'est pas publique et c'est présenté de la sorte, est-ce que les 30 jours sont encore valables, sont encore exigeables? Est-ce que nous suivons la même procédure en ce moment? Bien sûr, on fait cela indépendamment de la partie de la présentation de candidature qui a été modifiée. Nous continuons à établir ce délai de 30 jours. Nous avons déjà franchi le temps qui nous a été accordé par 3 minutes. J'accorde quelques petites questions. Je m'appelle Ousmane Douda. Je suis un participant à titre privé du Nigeria. Ma question se rapporte à l'intérêt public. Certains pays ont soumis toutes les normes et tous les accords aux politiques d'intérêt public. Maintenant, à moins qu'une exception soit ici faite, je ne pense pas que la présentation ou la provision d'un code de conduite soit nécessaire pour protéger l'intérêt public ici. Enfin, je me le demande. C'est Christine qui parle. Si je comprends bien ce que vous nous dites, l'exemption au code de conduite devrait être liée à l'intérêt public, c'est ça? Oui, ce que je dis, c'est que certains pays ont des lois qui sont liées à l'intérêt public comme un élément fondamental pour tout le reste. Et si nous avons ici une demande d'exemption par rapport au code de conduite, dans ce cas particulier, comme cela est établi par exemple par la loi municipale, supposons, est-ce qu'il faut l'inclure ici, suivant le code de conduite? Dan, du personnel de l'ICANN, prend la parole. Je crois que, suivant la manière dont la spécification est établie, cela est cohérent. S'il faut le faire pour une question d'intérêt public, nous n'allons pas accorder cette exception au code de conduite, même si l'on a répondu de façon positive à ces deux facteurs. Ce qu'il faut encore savoir, c'est ce que nous voulons dire par là exactement. Ce que nous faisons semble être cohérent par rapport à ce que vous demandez, mais il faudrait analyser la question plus précisément. Je m'appelle Liz Banger de PRR et je voudrais savoir, je sais que nous n'avons pas de temps, mais je voudrais savoir quelque chose à propos des interrelations entre les services supplémentaires et l'annexe A et la demande de modification, c'est-à-dire si un registre ou un candidat veut ajouter des services, est-ce qu'il le ferait par une demande de modification avant la passation du contrat? Enfin, quelle est la relation mutuelle de ces deux aspects? Christa, cela dépend du candidat. Mais la manière dont nous avons configuré le programme et tout le processus de rédaction des contrats est la suivante. On peut fournir les services pour lesquels on a été évalué. Cela apparaît sur l'annexe A. Si l'on veut ajouter d'autres services, on peut faire de deux choses l'une. Ou bien présenter une demande de modification et la soumettre à la période de commentaires publics, ou bien se soumettre au processus de passation de contrat et nous faire savoir que l'on veut ajouter des services et passer encore une fois du processus. Cela dépend de l'évaluation que vous en ferez à ce moment-là. Krista parle. Je voudrais ajouter quelque chose. Pour pouvoir aller de l'avant sur le, par rapport au processus et de façon rapide. Si une demande de modification est présentée après avoir eu les résultats de l'évaluation initiale et si l'évaluation a porté sur certains services de registre, cette modification exigerait une réévaluation ou une réévaluation dans une série enfin plus tardive. Donc il se peut que pendant la phase de l'évaluation étendue, il est possible donc que l'on aborde cet aspect, et à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose dont on ait besoin au moment où l'on signe l'accord de registre, il s'agirait de la procédure la plus rapide pour ne pas prendre de retard, avancer sur ce qui a été demandé et commencer ensuite une autre procédure après avoir signé le contrat. Ma question va dans ce même sens, c'est Job qui parle. Le candidat a déjà été évalué, est-ce qu'on peut supposer que les services de registre décrits ont été évalués de telle façon que, une fois que nous avons dépassé cette étape et que nous voyons que les services de registre présentés dans la candidature sont cohérents par rapport à ce qui est exigé dans l'annexe A, on peut supposer, tant que cette cohérence se maintiendra entre les services de registre qui ont été présentés et évalués et l'annexe A, qu'il n'y aura pas de controverse. Mais le désavantage, là, se présente comme suit. Si nous n'offrons pas un annexe A qui soit cohérent avec les services évalués, cela pourrait soulever des problèmes. Je crois que ma question est la suivante. Dans quelle mesure ce qui est dit dans la présentation de candidature est relativement présent dans le contrat? Et c'est une vision très générale de la procédure. Je crois que ce n'est pas très sûr de supposer que ce qui est dans la présentation de des candidatures approuvées lors de l'évaluation sera enfin rédigée dans le contrat. Mais l'évaluation des services pendant le processus d'évaluation est une évaluation de type technique pour voir ce qui pourrait se passer avec ces services sur Internet, s'ils pourraient enfin présenter des problèmes. Mais il peut y avoir des plaintes par rapport à d'autres parties du contrat ou à d'autres aspects, où l'on pourrait voir s'il y a une cohérence par rapport à l'émission de factures ou si c'est cohérent par rapport à certains aspects politiques qui ne sont pas normalement évalués lorsque l'on examine l'aspect technique. Paul, bonjour. J'ai une question sur un contrat différent. Ce matin, j'ai eu l'honneur de signer l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement et personne ne parle du RAA. Du RRA, de l'accord de registre, bureau d'enregistrement. Il y a là des points qui ne devraient pas être inclus dans cet accord-là, qui peuvent enfin porter à des malentendus dans la structure posée par l'ICANN. Dans le RRA et dans le RAA, on a parlé du RA, mais pas de cet accord entre le registre et le bureau d'enregistrement. On pourrait peut-être nous donner en 30 secondes quel est le processus de supervision de l'ICANN pour ces accords, parce que beaucoup de personnes essaient d'incorporer, à mon avis, dans ces accords, beaucoup de choses qu'ils n'ont pas pu faire inclure dans les autres accords. C'est Dan qui prend la parole. La procédure que nous avons pour les RRA est semblable à celle que nous avons eue pour l'accord pour le patronage pendant 12 ans. Là, on pouvait établir ou passer des accords avec le registraire que l'on voudrait, enfin le bureau d'enregistrement que l'on voudrait. S'il y a des plaintes à cet égard, nous pouvons l'examiner. Si le registre ne respecte pas l'accord de registre ou par rapport au RRA et non pas dans le RAA, ce serait très difficile maintenant de réfléchir à un accord qui puisse servir à tous les propos. En premier lieu, donc, on peut établir ce que l'on veut tant que l'on respectera les obligations qui sont imposées. Lorsqu'il y a des registrants et des bureaux d'enregistrement, Il faut faire cela sous une révision de l'ICANN et il y a toute une procédure pour cela. Si vous avez des soucis sur un registre qui a un RRA qui n'est pas approprié, nous pouvons aborder la question, mais il n'y a pas de procédure formelle pour le faire. Vous le voyez, ça, vous le comprenez, hein? Est-ce qu'il y a des prévisions faites pour que les choses soient faites de la même manière avec tous les bureaux d'enregistrement et les registres? Bon, il y a des conditions. Je ne me rappelle pas par cœur tout l'accord de registre nouveau, mais je crois que c'est le même RAA, c'est-à-dire lorsque nous voyons une question liée à la conformité, nous l'abordons directement avec vous. Bon, nous avons déjà trop débordé du temps qui nous a été alloué. Nous avons encore 10 questions dans la liste d'attente. Amadeo, je sais que tu as une question rapide, nous pouvons y répondre, mais je veux que ceux qui ont posé leurs questions à distance sachent que nous avons reçu leurs questions, que nous allons y répondre et que ces questions seront traitées. Amadeo, vas-y vite. Je te pose une question que j'ai envoyée au département juridique de l'ICANN, mais on m'a dit qu'il fallait que je le fasse dans le service aux clients. Cela se rapporte à la rédaction des politiques d'enregistrement et des RAA. Avant, l'on disait que cela se faisait en anglais, mais maintenant, est-ce qu'on peut supposer que ces politiques et ces accords doivent être rédigés seulement en anglais, toute la communauté est d'accord là-dessus, ou cela peut se faire directement en russe, en arabe et pas en anglais? Parce que bon, moi j'ai ma position à cet égard. Je sais que l'accord de registre est en anglais, je ne sais pas pour le reste. Dan le sait peut-être. Dan prend la parole, je me rappelle. Cette question qui a été posée auparavant, nous allons essayer de vous trouver une réponse dans les plus brefs délais. Je déteste d'avoir à vous répondre comme ça, d'avoir à vous dire cela. Je promets que c'est ma dernière question. Nous avons quelque chose de préparé avec champagne pour tout cela à Los Angeles. Bon, merci à vous tous de ce que vous avez proposé. Nous commençons dans 2 minutes sur les essais de prédélégation.